Très bon réveil. Si vous vous réveillez, voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Moins 40% d'énergie fossile en France d'ici à 2030. Le ministre François de Rugy l'annonce comme objectif ce matin. Nous y reviendrons dans un instant. Alors que l'ancien ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, s'exprimait hier soir. Nicolas Hulot, le gilet vert. Frédéric Seyss analysera sa prestation dans son billet politique dans un gros quart d'heure.
Avant cela, dans cette édition, vous entendrez que le mouvement des gilets jaunes pourrait être repris par les syndicats. Selon un spécialiste, chacun y gagnerait.
Quel est le nouvel homme fort du Parti communiste français? Il s'appelle Fabien Roussel et remplace Pierre Laurent. Avec lui, le PCF entend bien récupérer sa place à côté des insoumis et non pas avec eux.
Et puis on ira ensuite à Tijuana, au Mexique, où plus de 4000 migrants attendent de pouvoir demander l'asile aux États-Unis. Le maire de Tijuana veut les en dissuader.
Jair Bolsonaro, président brésilien, place des évangélistes dans son gouvernement. Cela commence avec le ministre de l'Éducation, au grand dam des enseignants, vous l'entendrez. Enfin, quelles œuvres faut-il rendre à leur pays d'origine quand elles ont été volées il y a des dizaines, voire des centaines d'années? Un rapport sur la restitution est remis aujourd'hui à Emmanuel Macron. Nous irons au Sénégal, à Dakar, où un directeur de musée les attend. Est-ce pour voler la vedette à Nicolas Hulot qui s'exprimait hier soir, ou bien pour verdir un peu plus l'image du gouvernement face aux gilets jaunes? Probablement un peu des deux. Ce matin, dans les colonnes de Libération, l'actuel ministre de la Transition écologique, François de Rugy, dévoile une partie de la programmation pluriannuelle de l'énergie. Une programmation qu'Emmanuel Macron est censé annoncer mardi prochain. Bonjour Véronique Robérotte.
Bonjour.
Vous avez lu cette interview. François de Rugy annonce une baisse de 40% des énergies fossiles en France d'ici à 2030.
Voilà, objectif prioritaire de la France en matière d'énergie. Deux secteurs sont visés tout particulièrement, les transports et le logement. Moins d'essence, de diesel dans les transports, cela signifie plus de voitures électriques et hybrides, avec des ventes de voitures électriques multipliées par 5 d'ici 2022, annonce François de Rugy. En matière de logement, le gouvernement entend faire la chasse aux passoires thermiques en isolant mieux les logements et en aidant les Français à sortir du chauffage au fioul d'ici 10 ans. Dans ces deux secteurs, François de Rugy insiste sur le fait qu'il faudra inciter les Français à investir dans ces énergies propres, aider les plus modestes, les plus réfractaires dans cette transition énergétique, un accompagnement social digne de ce nom que Nicolas Hulot a appelé de ses voeux hier soir chez nos confrères de France 2, sachant que si cela avait été fait, a dit le ministre Nicolas Hulot, la crise des gilets jaunes aurait pu être évitée. 40%, c'est aussi la part des énergies renouvelables dans le futur mix énergétique de la France. 40% de renouvelables dans notre production d'électricité d'ici 2030, hydroélectrique, solaire, éolien terrestre et éolien en mer, emploi vert à la clé. Les filières en France, notamment dans l'offshore, restent organisées et sans tarder pour espérer produire ces effets d'ici 2030.
Et sur le nucléaire maintenant, Véronique, rien de concret dans ce qu'a dit ce matin François de Rugy. Il confirme toutefois que le calendrier est bien repoussé.
Effectivement, pas de scénario encore dévoilé, pas avant mardi prochain. On change la date, mais pas l'équilibre, dit François de Rugy. La part du nucléaire dans la production d'électricité française passera bien à 50% d'ici 2035 et non plus en 2025, sans que l'on sache encore combien de réacteurs seront fermés, autre que Fessenheim. Et si la construction de nouveaux EPR sont à l'étude, les ONG de leur côté conseillent au gouvernement de renoncer au plus vite, d'investir des milliards dans la prolongation de la vie de nos centrales pour les investir dès maintenant dans les énergies renouvelables.
Merci Véronique Robérotte. Voici donc un calendrier à long terme, loin de la fiscalité écologique qui touche le pouvoir d'achat des Français au quotidien. Là, plus discrètement, le gouvernement semble faire une concession en reportant ultérieurement la création d'une vignette poids lourd. Nos confrères de France Info l'affirment. Censée rapporter 500 millions d'euros par an, cette taxe aurait permis de faire des travaux d'infrastructure. Ce report est une erreur, dit ce matin le patron d'Europe Écologie Les Verts, David Cormand, décrit des dirigeants tétanisés à la tête de l'État, tétanisés face à l'impasse, dit-il, du transport par route. Ce report pourrait en tout cas être perçu comme un geste, un recul face à la mobilisation des gilets jaunes, alors qu'une nouvelle mobilisation parisienne se profile demain. Elle est autorisée sur le Champ de Mars, au pied de la Tour Eiffel. Quelle suite a donné à ce mouvement? Bernard Vivier, le directeur de l'Institut supérieur du travail, estime lui que les syndicats pourraient s'en emparer. Il s'en explique.
La question pour ce mouvement, c'est de se dire, voilà, maintenant on est dans la rue, on a occupé des ronds-points, on veut faire une manifestation à Paris samedi prochain, mais comment nous structurer en quelque sorte? Comment transformer l'essai. Et c'est là où les organisations syndicales, qui ont des structures, des appareils, un savoir-faire, peuvent, comme on dit dans le jargon syndical, coiffer le mouvement, c'est-à-dire entrer dans le mouvement et le conduire. N'oublions pas que samedi dernier, il y a eu 2 morts et 600 blessés. Des organisations syndicales auraient veillé à ce qu'il n'y ait pas autant de dégâts. Des violences aujourd'hui se diffusent dans l'île de la Réunion, un département français qui est souvent sensible à une inquiétude et à des problèmes sociaux importants. Donc nous sentons aujourd'hui les organisations syndicales à l'affût, prêtes à intervenir, mais bien évidemment pas pour que M. Macron ensuite déguste les marrons que les syndicats auraient tirés du feu.
Bernard Vivier qui répondait à Stanislas Vazak. Pour le moment, les syndicats suivent la mobilisation de loin. Et si la section Force ouvrière transport avait appelé ses militants à rejoindre les manifestants, eh bien hier, le nouveau chef de file de FO, Yves Verrier, a marqué sa distance avec le mouvement qu'il qualifie d'informe. Et c'est une crise évitable, disait hier soir Nicolas Hulot à propos de la colère contre la hausse des taxes sur les carburants. Nous l'avons dit il y a quelques minutes avec Véronique Robérotte. Nicolas Hulot qui s'exprimait sur France 2 pour la première fois depuis sa démission du gouvernement. Il a par ailleurs précisé qu'il ne soutiendra aucune liste aux élections européennes de mai prochain. Et l'on s'en souvient, fin août, en annonçant son départ, Nicolas Hulot avait dénoncé le mur des lobbies auquel il s'était heurté au sommet de l'État. Depuis, France Culture a enquêté sur cette pratique de lobbying pour le grand reportage qui sera diffusé ce soir. Au fil de ces rencontres, Catherine Pétillon a découvert leurs pratiques.
Cela va des rendez-vous officiels avec les acteurs publics aux rencontres et invitations les plus informelles. Ce sont des argumentaires juridiques, des amendements parfois, ou encore des études scientifiques livrées aux décideurs, des colloques, rencontres destinées à mettre en lumière tel ou tel expert. Par tous ces moyens, ceux qui font du lobbying poursuivent un même objectif, influencer les décisions publiques et les régulations. Et ils sont nombreux à le faire, fédérations professionnelles, entreprises, cabinets de conseil en lobbying, associations, etc. La loi Sapin 2 de 2016 les appelle les représentants d'intérêts. La loi a ainsi donné une forme de légitimité institutionnelle à ces acteurs, tout en leur fixant des obligations. Tous sont désormais tenus de s'inscrire dans un registre tenu par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Ils doivent y déclarer les thèmes de travail, les types de décideurs visés, les actions utilisées et une fourchette des sommes engagées, mais sans plus de détails. Une avancée vers plus de transparence, mais qui en l'état ne permet guère de mesurer comment chacun a pu peser sur les décisions publiques. Or, c'est bien ce que réclament un certain nombre d'acteurs de la société civile. Beaucoup dénoncent en outre une inégalité de moyens entre les représentants de l'industrie, du monde des affaires et les autres. De leur côté, les professionnels de l'influence peuvent désormais difficilement faire l'économie d'un discours sur la transparence. Certains, en particulier au sein des cabinets de conseil, en font même un argument. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir faire reconnaître leur rôle et revendiquer une légitimité démocratique, en somme, à faire de l'encadrement un instrument de leur normalisation dans le champ politique. Que faut-il rendre public et comment? Quelles contraintes doivent s'appliquer au métier de l'influence? La régulation du lobbying fait-elle même l'objet d'un intense lobbying?
Un cercle vicieux donc à découvrir à partir de 17h sur France Culture, Lobbying, les méthodes de l'influence. C'est un grand reportage réalisé par Catherine Pétillon et Annie Bro. Il sera suivi d'un débat animé par Aurélie Kiefer. Le Parti communiste va changer de secrétaire national ce week-end lors de son 38e congrès qui s'ouvre aujourd'hui à Ivry-sur-Seine en banlieue parisienne. Après 8 années passées à la tête du PCF, Pierre Laurent sera remplacé par le député du Nord, Fabien Roussel. Changement de direction, changement aussi de ligne et de stratégie, comme l'a constaté Stéphane Robert en rencontrant le nouveau chef de file communiste.
Avec Fabien Roussel, c'est un peu comme si le Nord prenait sa revanche sur Paris et l'Île-de-France. Un ch'ti à la tête du PC, ça n'était pas arrivé depuis Maurice Thorez. Et l'intéressé Fabien Roussel a encore un peu de mal avec son titre de futur nouveau patron.
Je suis pas patron, ça va pas non. Je suis député communiste. Et effectivement, je pourrais être le nouveau secrétaire national du Parti communiste français.
Ce qui va changer, c'est que les communistes ont décidé de renouer avec le fait de présenter un candidat à l'élection présidentielle. La dernière fois, il s'était rangé derrière Jean-Luc Mélenchon. Une erreur, explique le futur nouveau secrétaire national.
On est un parti politique, c'est pas pour faire de la figuration. Donc, un parti politique, il a vocation à présenter des candidats aux élections et aux rendez-vous nationaux. Donc c'est notre rôle et on aurait dû le faire, on l'a pas fait, voilà. Maintenant, le passé est un œuf cassé, l'avenir est un œuf qu'on couve.
Il sera évidemment difficile au Parti communiste d'envisager concurrencer Jean-Luc Mélenchon pour occuper la place prééminente à gauche. Mais il s'agit tout de même d'essayer d'exister face à la France insoumise pour endiguer l'hémorragie électorale qui se poursuit de scrutin en scrutin. Aux dernières municipales, le PCF avait encore perdu une cinquantaine de villes de plus de 3500 habitants. Et aux élections départementales, un tiers des élus étaient restés sur le carreau, soit près de 80 conseillers départementaux.
Le vote des délégués du PCF aura lieu dimanche midi.
8h10 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Plusieurs centaines de migrants centra-américains ont manifesté au Mexique, à Tijuana, hier soir.
Oui, près du poste frontière avec les États-Unis. Ces derniers jours, 4400 personnes ont atteint cette ville dans l'espoir de passer côté américain. Hier soir, le président américain Donald Trump a réitéré sa menace. Il pourrait fermer la frontière avec le Mexique. Les migrants pourraient donc rester plusieurs mois à Tijuana, malgré les appels incessants du maire de la ville. Emmanuel Stills l'a rencontré.
Pourquoi faut-il qu'ils viennent tous à Tijuana? La question est posée par le maire, Juan Manuel Gastelum, au sujet des migrants qui se rassemblent dans sa ville. Selon lui, la caravane suscite beaucoup d'animosité, de mécontentement à Tijuana. Le maire veut d'ailleurs se lancer dans un projet inédit, consulter la population pour savoir si la ville doit encore accepter des migrants. Mais après avoir scandalisé le Mexique en plaidant pour l'expulsion des centra-américains qu'il juge violents et agressifs, Gastelum a modéré son discours.
Je ne peux pas dire partez, dégagez, certainement pas. Tijuana est une ville de migrants, ils sont tous les bienvenus. Combien pouvons-nous en accueillir? Mince alors, nous sommes saturés, nous ne pouvons pas en recevoir plus. Nous n'avons pas d'endroit où les mettre. Que va-t-il se passer demain? Je n'en sais rien. Nous devons faire avec les moyens du bord et pour le moment, on ne s'en sort pas si mal.
L'attitude défensive adoptée par Gastelum face à la caravane de centre-américains lui a valu d'être baptisé le Trump mexicain. Il en rit, même s'il juge la comparaison ridicule. Mais le politicien conservateur insiste, il faut dévier la caravane et la canaliser vers d'autres villes.
C'est une autre sorte d'exode, un retour à la maison pour plus de 8000 médecins cubains travaillant jusque-là au Brésil depuis 5 ans. La Havane a décidé de suspendre un programme humanitaire d'envoi de médecins. Le président brésilien élu l'avait ouvertement critiqué il y a plusieurs semaines. Les médecins se retirent donc du pays. Jair Bolsonaro au Brésil qui multiplie les critiques avant de prendre officiellement ses fonctions en janvier prochain. Il a nommé hier soir son ministre de l'Éducation. Il s'agit d'un philosophe et théologien colombien, Ricardo Vélez Rodriguez, très conservateur. Voilà qui va dans le sens de ce que le dirigeant d'extrême droite veut mettre en place dans les écoles brésiliennes et qui inquiète les professeurs, Anne Vigna.
L'éducation est un autre thème polémique du futur gouvernement de Bolsonaro. Une des promesses de campagne du président élu est de mettre en place un projet pourtant déjà considéré comme inconstitutionnel par la Cour suprême. Dénommé « école sans parti », ce projet consisterait à dénoncer les professeurs qui feraient une soi-disant apologie des idées de gauche sous couvert d'enseignement. Toute éducation sexuelle serait également proscrite dans un pays où les grossesses précoces sont un fléau que l'État a essayé jusqu'à présent de combattre. Ce projet d'école sans parti, présenté sans succès au Parlement il y a 5 ans, a déjà été voté dans certains États du Brésil, mais il a toujours été freiné par la justice pour ne respecter ni la liberté d'expression ni celle de l'enseignement. Il n'avait jamais été vraiment pris au sérieux par les syndicats de professeurs jusqu'à la victoire de Bolsonaro. Depuis, les syndicats le voient au contraire comme une chasse aux sorcières et une menace bien réelle. Le nouveau président a même encouragé les élèves à filmer leurs professeurs qui se rendraient coupables d'endoctrinement. Le projet sera à nouveau présenté la semaine prochaine par les députés du groupe parlementaire évangélique. L'école version Bolsonaro sera donc sans parti, mais pas sans religion. Les évangéliques exigent en effet du nouveau président d'être les responsables de la pédagogie et de l'éducation, aux grandes dames des professeurs du Brésil.
Nous en parlons toute la journée sur France Culture. Un rapport sur la restitution des œuvres africaines est remis cet après-midi au président Emmanuel Macron. Les auteurs, Bénédicte Savoie, Félouine Sarr, invités des matins, ont recensé au moins 90 000 pièces concernées dans les musées français. Des œuvres qui potentiellement pourraient revenir en Afrique, comme au Sénégal, à Dakar, dans le futur musée des civilisations noires, où s'est rendu pour France Culture William Delesseux.
Un grand cercle de béton couleur sable, le musée est inspiré des castes traditionnelles. Son directeur, Amadi Bokoum, salue la publication du rapport Sarr-Savoie.
Je suis convaincu que ce sera un document extrêmement solide.
Le musée des civilisations noires n'a pas encore de collection propre, mais pour la première exposition, des partenariats, dont un avec le musée du Quai Branly. La plupart des objets sénégalais sont en France, issus de spoliations commises par exemple en 1930 pendant une mission ethnographique.
En fait, c'était du grand vandalisme. Par exemple, Dakar-Djibouti, ça a duré pratiquement 3 ans de pillage. Et c'est très intéressant parce que Michel Derisque, qui participait tous les jours, fait une note et il expliquait comment il venait terroriser les gardiens de culte pour les obliger à céder les choses, comment ils allaient désacraliser et fuir avec les objets, ou bien imposer un chef de village à donner un fétiche contre un poulet.
Avec ce nouveau musée, les conditions sont réunies. Il est donc grand temps que les œuvres volées reviennent ici, au Sénégal. C'est l'avis du chercheur Abdoulaye Camara de l'Institut fondamental d'Afrique noire.
Ce sont des objets qui participent à notre histoire, à notre identité. Donc, maintenant, c'est aux Africains également de documenter, de regarder leurs bases, de regarder leurs inventaires, de regarder les objets qui sont partis durant l'époque coloniale et aujourd'hui, qui ont été volés, et d'essayer de les réclamer en disant, voilà, mais il y a un job qui doit être fait de part et d'autre, c'est que chaque musée tienne un inventaire correct de ses collections.
Au Sénégal, pas encore d'inventaire précis. Les historiens estiment qu'au moins 5000 documents et objets pourraient être réclamés à la France si la publication du rapport est suivie d'une décision politique.
Et pour en savoir plus, vous pouvez retrouver un article sur franceculture.fr dès ce matin, un article dédié aux grandes affaires de restitution patrimoniale en France. À qui appartient la culture? Nous y revenons par ailleurs dans un court instant avec vos invités. Guillaume, juste le temps pour moi de vous donner la météo du jour. Rares seront les départements ensoleillés aujourd'hui. Il faudra se trouver près de la frontière franco-belge ou sur le sud-ouest. Partout ailleurs, le temps sera perturbé et même orageux sur l'Hérault, les Bouches-du-Rhône, l'Ardenne, le Var et le Gard. Il fait ce matin 2 degrés à Besançon, 4 à Lille et Paris, 6 degrés à Grenoble, 8 à Rennes et Bordeaux, 13 à Nice, 16 sur la Corse.